FM 93.1. Nous sommes mardi matin dans La vie est un roman. Et je suis avec François Chalin, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Rococo, un livre qui a été publié par les éditions Non Standard. Livre qui a un dispositif exceptionnel, en ce sens qu'il existe des pages coupées et des pages non coupées dans le livre. Et qu'on peut lire le livre donc sans découper les pages. Dans ce cas-là, on a accès au texte. Et si on découpe les pages, on a accès à un certain nombre de dessins. Donc ce livre est composé de textes et de dessins. C'est une réponse à un événement qui a lieu en 2015, dont nous allons parler. Et c'est aussi la révélation de tout un univers qui tourne autour des oiseaux. Donc les dessins sont des croquis d'oiseaux et sont convoqués tout ce que la chanson française comporte d'oiseaux, tout ce que la littérature mondiale comporte d'oiseaux, tout un univers d'oiseaux. Donc je vous mettrai les références du livre sur la page du podcast. François Chalin, Rococo ou Drôle d'oiseau, divertissement aux éditions Non Standard. Je ne sais pas si vous voulez dire deux mots du livre, Rococo.
Non, ensemble. Mais pour signaler quand même que va paraître, je crois, la semaine prochaine, une édition différente dans laquelle les pages masquées seront les pages de texte. Donc ce sera un livre sans aucun texte, avec uniquement des dessins d'oiseaux ou des pages blanches. Et puis, il faudra couper pour accéder au texte.
Et c'est excellent. Et ça sera la version collector.
C'est une version pour s'amuser.
Et c'est la version chic.
Un peu d'exemplaires.
Et donc, le livre est le deuxième chez cet éditeur qui revient sur un événement qui a eu lieu en 2015. Pour le cinquantenaire, sa disparition, il y a eu à Beaubourg, au centre Pompidou, une exposition du 29 avril 2015 au 3 août 2015 qui s'appelait « Le Corbusier mesure de l'homme » et qui a attiré en 91 jours 267 489 spectateurs. 267 489 spectateurs, ce qui est énorme pour une exposition d'architecture. Le Centre Pompidou a invité le public à comprendre toute l'œuvre du Corbusier à travers le module or, qui est la silhouette d'un corps humain d'1m83, système de proportion basé sur la taille d'un policeman anglais. Un mois avant, en mars, sort un autre livre de François Chalin qui s'appelle « Un Corbusier ». Et c'est ici que notre affaire commence. Il n'y a pas de lien, a priori, entre le livre de François Chalin et l'exposition. Le livre aurait pu paraître l'année précédente. Et Benoît Peters, le spécialiste d'Hergé, sort un article dans Libé, Le Corbusier plus facho que Fada, et où il associe le livre de François Chalin à un livre de Xavier de Jarcy qui vient de sortir, qui est sorti le 8 avril, qui s'appelle « Le Corbusier, un fascisme français ». Le 9 sort « Le Corbusier, une froide vision du monde » de Marc Perelman et « Les dés sont jetés ». Donc on a trois livres autour du Corbusier, parmi des dizaines d'autres, bien sûr. Le 10 avril, il y a un communiqué de l'agence France-Presse qui sort « Le Corbusier, fasciste militant, des ouvrages fissurent l'image du grand architecte. » Ça, c'est un petit peu le noyau de Rococo. Et ce communiqué est traduit en nombreuses langues, comme le sont les communiqués de l'agence France-Presse, et en diffusion internationale. Et il donne lieu à des dizaines et des dizaines d'articles. 31 le jour même, 141 en 3 semaines au Mexique, Maroc, Grèce, Roumanie, Thaïlande, Chine, Finlande, États-Unis, Brésil, Danemark, Pologne, Israël, Uruguay, etc. En un semestre, 380 articles dans 37 pays. Donc ça, c'est le point de départ.
Voilà. On en est, je crois, ça sont environ dans 41 pays différents.
Mais... 41 pays différents maintenant, oui. Donc c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire parce que d'abord, pour moi, ça a été un choc intense. Je ne savais pas ce mode de diffusion nouveau, viral, de l'information. Maintenant, on y est habitué, mais il y a 4 ans, c'était moindre. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir des articles paraître dans des pays qui ne savait même pas qui était Corbusier, qui ne parlait pas français, un livre qui s'était modestement vendu, donc que les gens n'avaient pas reçu, n'avaient pas lu. Il ne faisait que prendre l'article de l'agence France Presse ou d'autres articles, les combiner, les signer quand même, des auteurs signés. Il mettait une photo de Le Corbusier qui parfois était une photo de tout autre personnage, par exemple du grand critique postmoderne anglais Charles Jenks, qui n'a rien à voir, ni la même génération, ni le même statut social. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'une chose que je ne connais pas, c'est pas que je ne connais d'ailleurs toujours pas bien, qui sont les réseaux sociaux, apparaissait de façon extraordinaire. C'est en cela que un article paru dans un journal suédois était commenté par 300 ou 400 personnes qui disaient « I like, I dislike », enfin, toutes les choses que l'on connaît même maintenant. J'étais tout à fait surpris de cette inflammation. Et puis après, il y a eu l'inflammation sur la question même de savoir si Le Corbusier était fasciste ou antisémite, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais...
Oui, absolument. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que le... Alors, l'enjeu, après, vos amis, vos camarades de jeu, le milieu dans lequel vous fréquentiez, donc j'ai dit, mais vous étiez... vous faisiez une émission sur France Culture consacrée à l'architecture qui s'appelait Métropolis. Vous avez été critique d'architecture pour Le Monde. Vous avez fait des pitchs dans Le Monde. Vous avez été prof au Quai Malaquais d'architecture. Donc, vous vivez dans ce milieu. Et les gens vont se blesser parce qu'il y a la possibilité d'ouvrir un musée Picasso à côté de la Villa Savoy et qu'il y a aussi la question du classement de l'œuvre de Picasso à l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et donc là, il y a déjà un quiproquo parce que votre livre n'était pas pensé comme un pamphlet à charge. Donc là, c'était ni synthèse, ce que vous dites vous-même, ni une synthèse, ni une compilation, pas de chapitre, pas d'entrée thématique, une dérive, grandes et petites histoires mélangées, 1 200 000 signes, des anecdotes à foison, un livre rococo, c'est pour ça que le nouveau s'appelle Rococo, mais aussi 80 pages du livre sur le côté facho du maître, c'est-à-dire un sixième du livre sur cet aspect-là, et remarquablement... avec une approche très humaine comme ça, très existentielle, très très artistique, très touchante, pas du tout idéologique. On n'est pas dans une dimension où on traque le vocabulaire, où on traque des rassemblements, des attitudes, c'est même si ça compte, mais plutôt on cherche une dimension psychologique du personnage.
C'est une affaire très très curieuse pour ma génération, l'affaire Le Corbusier, parce que bien sûr j'ai 70 ans et Le Corbusier, je publie un autographe de Corbusier à Monsieur Chalvin, très amicalement, mes encouragements, ça, de 1950, je crois, décembre 50, qui, bien sûr, était un autographe qu'il avait fait à un livre de mon père, et non pas à moi, j'avais 2 ans. Mais c'est pour vous montrer la familiarité que j'ai avec, l'ancienneté de la familiarité que j'ai avec ce monde, avec Le Corbusier. J'ai immensément voyagé, il y a un ou deux bâtiments de Le Corbusier au monde que je n'ai pas visité. J'ai dessiné depuis 30 ou 40 ans tous ces bâtiments. Je connais parfaitement, j'ai 500 livres de ou sur Le Corbusier, des incunables, des photos, des coupures de presse. Je suis pétri de ce monde et de cette culture. Bien sûr, comme toute ma génération, dans les années 70-80, nous avons vécu le moment postmoderne, on a eu des réticences, on a abandonné une partie de la mystique. C'est une mystique, l'architecture moderne et Le Corbusier. Mais nous savions déjà depuis longtemps que Le Corbusier avait un tout petit peu été un homme d'extrême droite. On le savait parce que on avait un livre qui s'appelait « Destin de Paris » paru en 42, au revers duquel figuraient les autres ouvrages parus de la même collection, des ouvrages nazis, des ouvrages espagnols, de ministres italiens, etc. On voyait très bien dans quel milieu il était. Mais c'était le vieux de la famille, hein, le vieux qui a eu des errances. Et puis, on s'en consolait souvent, enfin les Corbusiens s'en consolaient en disant « Écoutez, c'est un architecte, il a le temps de travailler, donc il fallait bien qu'il soit... c'était un défaut, bien sûr, mais il fallait bien qu'il célèbre à peu près tous les régimes. » Et puis c'est un architecte, il aimait bien les régimes autoritaires parce que les régimes autoritaires construisent bien et vite, etc. Les choses allaient comme ça, bon, c'était une sorte de secret de famille que tout le monde portait en soi, comme dans les familles communistes où on portait en soi des tas de choses, des tas de crimes qu'on sait très bien avoir été, etc. Comme les républicains espagnols savent très bien ce que raconte Hemingway, le boucher de tel endroit et telle ou telle cruauté. Mais peu importe. Et puis, en 2014 ou 13, le deuxième tome des lettres à sa famille. Le deuxième tome des lettres à sa famille, un ouvrage que personne n'a lu, je veux dire, c'est une petite diffusion quand même. Mais il se trouve que je l'ai lu parce que je voulais le chroniquer pour un journal auquel je collaborais, qui a disparu, qui était le journal de Michel Butel, L'Impossible. Et alors là, on voit des choses quand même qui apparaissent de façon flagrante, des choses vraiment extrêmement désagréables. Ce sont les lettres, en gros, de l'entre-deux-guerres, le deuxième tome. On voit des lettres à sa famille, en Suisse, à sa mère notamment, qui est fortement antisémite. On voit des tas de choses qui gênent vraiment beaucoup, beaucoup. À toutes les époques, des années 20, 20, 30, et puis des années ensuite de Vichy. Je commence à faire cette chronique pour le journal, et puis le journal ferme, parce que Butel était malade à ce moment-là, il est mort depuis d'ailleurs. Et je me dis que j'allais faire un portrait de Le Corbusier. Donc je me lance dans un ouvrage qui est une sorte de biographie. C'est un gros livre, hein. Il fait 580 pages, extrêmement dense. Et c'est un livre sans non méthodique. C'est pas un livre qui traite sujet par sujet Le Corbusier. Il le traite comme une espèce de grande basse, une grande chose littéraire, un peu étouffante sans doute. Mais enfin, c'est comme ça que j'avais voulu. Et puis je creuse beaucoup la personnalité de Le Corbusier, ses rapports avec tel ou tel, etc. Et je creuse ses amitiés, je creuse ses amis les plus intimes, Winter, des gens comme ça. Et je m'aperçois que de tout un monde qui jusqu'ici avait été très très sérieusement masqué. Et donc j'avais peu conscience quand même. Et sur lequel aucun ouvrage n'était paru. Donc ça fait en effet peut-être 60 ou 80 pages de mon grand portrait de Le Corbusier. Mais ça a été douloureux pour beaucoup de gens. Ça a été douloureux pour, bien sûr, pour les ayants droit, si je puis dire, les gens de la Fondation Le Corbusier, les gens qui, comme moi d'ailleurs, souhaitaient que soient classés ces monuments au patrimoine de l'UNESCO. Et ça a été douloureux en général pour le monde de l'architecture parce que Le Corbusier, c'est quand même la grande idole de l'architecture mondiale du XXe siècle, la principale idole, le plus génial créateur dans divers genres, des genres d'architecture minimaliste et rationaliste, des genres d'architecture plus baroque, plus sensuelle, comme l'église Ronchamp, des genres plus brutalistes, comme le logement social de Marseille ou d'autres. Donc on est dans un monde comme ça qui brusquement est un peu sommé de se rendre compte du caractère composite, en tout cas, du héros. Et c'est embêtant parce que c'est une époque aussi où l'architecture se voit privée de plus en plus de ses fins sociales. C'est que l'architecture devient de plus en plus... l'architecture est très faible aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'architecture est faible.
J'ai écrit ça en venant ce matin.
Il est peu cru, il est peu utilisé. Il est utilisé sous la forme du marketing, du végétariat, sous la forme de la transformation positive du monde social, etc. Bon, on n'y croit plus beaucoup. Les gens n'y croient plus, les élus n'y croient plus, le pouvoir n'y croit plus. L'architecture est faible. En plus, il est faible dans la structuration des métiers, de la promotion immobilière, des diverses techniques, etc. Donc, ça a été un choc assez douloureux pour beaucoup de gens, quelle que soit leur opinion sur Le Corbusier.
Oui, j'ai écrit ça dans le bus en venant ce matin. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on le met du côté de Sœur Teresa, de Nelson Mandela et Gandhi, c'est-à-dire d'idoles indéboulonnables, et pas du côté de Warhol, de Picasso, de Céline, parce qu'il s'est faible, parce que on s'en fout que les gens critiquent Céline, le voyage au bout de la nuit fait la différence, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et il y a toujours autant de désir pour la littérature.
Oui, oui.
On va avoir, je sais pas, un roman comme Les Bienveillantes, mais c'est peut-être pas un bon exemple, mais je pense pas ça, je pense au goût, à la littérature. Il y a Houellebecq qui est sorti cette semaine, ça fait événement quand même, ça passe partout. Et donc on a, c'est d'une grande fragilité et, alors vous avez dit que votre livre était étouffant, je pense l'inverse en fait. Je trouve ce livre a une respiration absolument formidable et effectivement il y a quelque chose comme l'œuvre d'une vie dans le sens où c'est une dérive, c'est un chemin qu'on parcourt et c'est assez étonnant. Donc oui, j'ai un petit peu travaillé en amont là. Le Corbusier fut considérable, reconnaissais-je, l'architecte fut immense, vous écriviez. Considérable aussi son acharnement à se construire un destin, à élaborer un roman plus ou moins trafiqué. Considérable aussi la propension des architectes à le diviniser. Ses accointances d'avant-guerre et ses 18 mois à Vichy, son goût pour l'autorité, son urbanisme funèbre oiseau. Donc c'est ça l'histoire des oiseaux. Ce qui devait être c'est le Corbusier, le Corbeau. En fait,
oui, il avait choisi ce nom, ce pseudonyme qui veut dire
ce qui devait être une commémoration est devenu un procès, hein. Et Charlotte Perriand écrit dans ses mémoires, Corbus n'était pas politique, et vous écrivez, c'est ce qu'on a coutumé de dire entre les architectes, voyant chez lui au pire de l'opportunisme. Je pense au contraire qu'il était essentiellement un idéologue, un politique, et l'un des chefs de ce que, en une autre époque, on eût appelé un cropuscule, une cellule plus ou moins dormante qui n'attendait que l'occasion de se radicaliser, un noyau militant qui aspirait au totalitarisme et que seule la confusion de l'époque a cantonné dans l'échec. C'est extrêmement violent, parce que dans Rococo, vous dites que vous avez un point de vue nuancé, que vous-même avez eu des pulsions maoïstes, et puis que vous vous rendez compte que c'est des questions
d'époque. Et staliniennes et diverses.
Voilà, et que c'est des questions d'époque. Mais là, par exemple, ces cinq lignes sont vraiment radicales, elles sont formidables.
Je ne pense pas qu'elles soient radicales. C'est un fait que Le Corbusier est très ami de Winter. Winter est un des créateurs le 11 novembre 1925 du Faisceau, le premier parti fasciste français, qu'ensuite Winter quitte le Faisceau quand il explose en 1928 et que Winter devient un des dirigeants du parti fasciste révolutionnaire, nouveau parti fasciste, plus violent. Ce sont des gens qui ont des cannes, ce sont des violences, ils ont des uniformes, ils tapent les gens, etc. C'est des fascistes, absolus, même si c'est par ailleurs des humanistes ou des gens d'un autre genre. Et ces gens-là sont les gens avec qui il vit, à Saint-Germain-des-Prés, à la même adresse, avec qui il déménage en 1932 dans l'immeuble qu'il construit à Boulogne. Et ce sont des gens avec qui il fait la revue Plan et ensuite la revue Prélude. Cette revue Prélude, personne ne la connaît parce qu'elle était... C'est un journal extrêmement fragile, donc moi j'en ai un exemplaire et j'ai la photocopie de 16 des 17 autres. Donc j'ai une collection tout à fait fragmentaire, je l'ai entièrement lue. C'est une revue fascisme de bon ton, d'un antisémitisme assez modéré, sauf quand de temps en temps ils attaquent bien sûr la démocratie, le complot judéo-maçonnique, etc. Mais c'est quand même une revue fasciste. Et ensuite, il se trouve tous à Vichy. Donc c'est un fascisme à la française, très très hostile au fascisme allemand, très hostile au racisme allemand, qui est le fondement du nazisme, un des fondements principaux du nazisme, beaucoup plus proche du fascisme mussolinien. Et au comité directeur, au comité central, et non pas au comité de rédaction, figurent quatre personnes. Winter, l'ami Pierre Feu qui est ingénieur des ponts, et Le Corbusier, et Lagardelle, qui passe à partir de 1932, je crois, est à Rome chez Mussolini. Donc ils sont trois. C'est le comité central d'un groupe politique. Ça ne s'appelle pas un comité de réaction. Et Le Corbusier est un des trois.
Et vous avez aussi une autre approche qui m'a beaucoup touché dans votre livre, qui m'a vraiment impressionné, c'est lié d'ailleurs à cette problématique du stade dont on parlera peut-être après. C'est son application physique, son peu de goût à la sexualité. Guerre précoce en matière amoureuse. Les femmes me sont en réalité indifférentes, écrit-il à 20 ans. À 33 ans, toujours dans ma méta, ça ne va pas. Sa femme devient alcoolique et dépressive, souffrant beaucoup de ses perpétuelles absences. À sa femme, il préfère ses chiens. Il est une maîtresse américaine en 46. Sa liaison avec Joséphine Baker, c'est du pipeau.
Oui, c'est
vraiment du spectacle, comme il fait, quoi. Il y a une allusion à l'homosexualité dans mon souvenir que je n'ai pas retrouvée en reprenant le livre.
Non, c'est que
hésitation à un moment donné.
La société de Corbusier est surtout, pour ce que j'en sais, j'en sais très peu, et surtout une sexualité refoulée et douloureuse. Mais ça, il l'a écrit dans les lettres à sa mère, il écrit des choses qui lui arrivent à Vienne ou ailleurs quand il a 18, 19, 20 ans, je ne sais plus très bien. Et ensuite, il a une très longue relation épistolaire avec un homosexuel déclaré, absolument magnifique, qui est un écrivain et critique d'art, qui le forme, c'est un de ses maîtres, une des personnes qui vont vraiment faire de lui le type extraordinaire et magnifique qu'il est devenu. Et le type le taquine tout le temps sur sa sexualité. On les connaît très bien par la correspondance qui a été éditée, qui est une énorme correspondance tout à fait touchante et émouvante. Il s'appelle Ritter, cet écrivain, ce mentor, en quelque sorte, un de ses maîtres spirituels et un de ses modèles littéraires. Mais la sexualité de Corbusier, à vrai dire, je n'en sais à peu près rien. Je sais simplement qu'il explique pourquoi il se mariera, c'est uniquement pour avoir des enfants. Il n'en aura pas pour qu'on tienne son ménage. Il n'en aura pas pour des raisons que j'ignore, peut-être parce que sa femme ne pouvait pas en avoir. Les relations avec sa femme sont tout à fait pénibles. On ne les connaît pas et on ne les connaîtra jamais bien à part quelques témoignages, parce que l'entièreté de la collection des lettres à sa femme a été séparée de son courrier par lui et confiée à un banquier suisse de ses amis qui l'a détruit. Ça, je le sais parce que j'ai déjà dîné il y a quelques jours par hasard avec le petit-fils de ce banquier suisse. Donc, on ne connaîtra plus le tenant de ce drame. C'est un couple dramatique, très touchant, hein, mais un couple peut-être dramatique et très touchant. On dit que Le Corbusier a vécu toute sa vie après la mort de sa femme, avec une vertèbre de sa femme qui avait survécu à la crémation et qu'il portait dans sa poche. C'est bouleversant. Enfin, on peut être à la fois dans une relation très difficile avec une femme et avoir pour elle une révérence.
Non, mais ce qui est bien, c'est que bon, c'est comme que cette problématique du stade, du sport, du côté fonctionnaliste du corps, cette absence de sensualité, il faut bien voir que c'est pas l'idée des secrets d'alcôve, c'est pas ici Paris, mais ce déni du corps.
Attention, déni du corps, faut pas. Le Corbusier est un homme qui était assez rachitique, qui était un peu borgne quand il était enfant, qui était assez timide et qui s'est épanoui, notamment grâce au docteur Winter, qui l'a initié au sport. Le Corbusier a fait de la boxe à un certain âge, à partir de peut-être de 1922, je ne sais pas, il devait avoir 35 ans, et il a développé un corps d'athlète. C'était un naturiste, c'est un homme, il y a plusieurs photos de lui nu, c'est un nageur, c'est un boxeur, c'est un homme qui fait du tennis et divers sports, c'est devenu un athlète. Donc il a son corps qu'il n'avait pas, qui était un corps un peu souffreteux, un jour il l'a assumé complètement, il l'a transformé.
C'est bien ce que je dis, donc je parle de sensualité. Et donc c'est un corps protestant, c'est un corps hygiénique. Et ça n'a rien à voir avec la sensualité. Et c'est un petit peu aussi la machine à habiter parle de ça aussi. D'avoir comme rêve de vivre dans une cabine de paquebot n'est quand même pas très épanouissant au niveau du corps.
Non. Et en même temps, il y a
ça veut dire que la salle de sport qui est en bas de chez moi peut se référer au Corbusier en disant « Le Corbusier, par exemple, à 35 ans, s'est mis à la boxe, regardez quel beau corps il s'est fait.
Oui, » oui.
Je ne parle pas de ce corps-là. Je ne parle vraiment pas du tout de ce corps.
Non, à vrai dire, la sensualité du Corbusier, on la connaît extrêmement peu, donc ce serait très aventureux pour le moment de s'y risquer.
Alors, il y a aussi le côté qu'on va retrouver chez des gens comme vous avez mentionné Hemingway, par exemple, qu'on retrouve chez Hemingway ou Guy Debord, des gens comme ça. Le Corbusier construit son image de façon systématique. Et par exemple, il y avait une chose dans votre livre que je trouvais très bien, c'était son rapport avec Picasso. Plutôt son absence de rapport, puisque Pierre Dex, qui est le grand spécialiste de Corbusier, dit pas de rapport entre les deux, c'est très sec.
Je vais demander à Pierre Dex avant sa mort.
Et donc c'est vraiment très très sec. Et le Corbusier, comme un adolescent aujourd'hui, se met sur la photo. Il se pousse pour être sur la photo avec Picasso.
Il prie Picasso de longtemps de venir visiter ses œuvres, mais Picasso ne l'aime pas pour diverses raisons, notamment des raisons de rivalité quant à la peinture, parce que Picasso sont amis aux enfants quand ils ont voulu s'établir comme peintres dans l'immédiate après-guerre de 14. Ont tenté de le faire au détriment des cubistes, ils ont moqué les cubistes, ils ont ensuite dans les affaires très très compliquées de vente de biens allemands, vous savez, sous séquestre, ils ont joué un rôle assez médiocre.
De spéculateurs,
en achetant à la casse des braques et des choses comme ça, donc il n'y avait pas de sympathie entre ces deux générations, ce sont des gens qui ont quelques années de différence. Et ensuite, Le Corbusier a évidemment plusieurs fois tenté de se couler dans le chemin de Picasso. Il n'est pas parvenu, mais Picasso ne l'aimait pas, le méprisait. Pour des raisons, Picasso n'était pas forcément très sympathique non plus. Mais il y a une photo très célèbre, c'est la visite de Picasso dans la cité radieuse de Marseille presque achevée. Et là c'est magnifique, Picasso est très beau, il est en chemise blanche, Le Corbusier est là, il y a une dizaine
c'est
de
les
photos,
icônes, hein, c'est comme ça qu'on...
Et c'est devenu une icône. Vous ne pouvez pas avoir un ouvrage de 12 pages sur Le Corbusier, donc vous n'aurez pas la photo avec Picasso et la photo avec Einstein, avec qui il a dû passer une demi-heure en 1945.
J'avais noté aussi le truc.
mais la construction de son destin par Le Corbusier est une chose qui est extrêmement frappante quand on le suit année par année, parce qu'on voit comment il reconstruit constamment, combien il abandonne et trahit ses maîtres principaux les uns après les autres, combien il les détruit, ou tente de les détruire, il s'agisse de Perec, il s'agisse de Ritter, combien il les nie, et combien constamment il se élabore un nouveau personnage, une nouvelle mythologie, et comme ça construit sa vie comme un personnage de roman.
Oui, il y a une psychologie.
En toute sincérité.
Des gens célèbres. Hein. J'ai découvert, d'ailleurs, dans ce studio, la personnalité d'Hemingway à propos de quelqu'un qui s'appelle McAlmont, qui filait 100 dollars par mois à Jaws pour qu'il finisse Ulysse. Et puis, Guy Debord, que je connais très bien pour d'autres raisons, fait ça aussi. Et il jette les gens très violemment après. Enfin, on a une espèce de caractéristique. Et dans cette problématique du corps, il y a aussi un terme qui fait sens, c'est le purisme comme mouvement de peinture. On a donc toujours cette idée de... ça relève de Weber, quoi, la construction du protestantisme et du capitalisme. Et on pourrait dire aussi que son antisémitisme vient de la chaux de fonds, mais ça se ferait un peu long. On peut noyer ça. On va faire une petite pause musicale, si tu veux bien, Mathieu.
Avec nos pieds chaussés de sang, avec nos mains clouées aux portes, et nos yeux qui n'ont que des dents, comme les têtes qui sont mortes, avec nos poumons de camel, avec nos bouches sparadrap, et nos femmes qu'on monte au ciel dans nos ascenseurs pyjama. Des rocs, coco, des rocs. Avec nos morales bâtardes, filles d'un Christ millésimé et d'un almanach où s'attarde notre millénaire attardé. Et puis nos fauteuils désossés, portant nos viandes avec os, et la chanson des trépassés, des jours de gloire de nos boss. Des rocs, coco! Des rocs! Avec nos oreilles au mur, avec nos langues polyglottes, qui magnétophonise sur tous les tons et toutes les bottes, avec nos pelisses nylon qui font s'attrister les panthères dans les vitrines du Gabon, leur peau pressentant la rombière. Des rocs, coco, des rocs. Avec nos journaux qui sèche les plaies prolétaires et les cadavres de romans que les concours vermifugèrent, avec la société bidon qui s'anonymise et prospère, et puis la rage au pantalon qui fait des soldats pour la guerre. Cela dit en vers de huit pieds, à seule fin de prendre date, je lâche mon humanité et je m'en vais à quatre pas.
François Chalin, qui est rococo, donc qui vient de sortir un livre aux éditions Non Standard, rempli d'oiseaux, et nous parlons du Corbusier. On pourrait prendre un exemple, la Cité du Refuge, puisqu'on est à Paris, et donc là je vous lis. Le Corbusier a toujours traité les questions d'éclairement avec un mélange bien à lui de scientisme, d'auto-persuasion, d'ingénuité et de pure effronterie. Jamais ces fiascos n'ont entamé son assurance, certainement pas l'échec du pan de verre de 1000 mètres carrés qu'il avait dressé rue Cantagrelle, dans un effet de transparence inédit, sans doute extraordinaire pour la façade de la Cité du Refuge, l'Armée du Salut. Ce mur rideau entièrement vitré orienté plein sud, les dortoirs y étaient inviables malgré les grands rideaux qui pendaient, la théorie de l'air exact par laquelle il prétendait résoudre la question du poumon dans l'habitation. Et là, je vous cite plus. Oui. Donc, rien ne marche. Et lui répond, Le Corbusier, quand on lui fait ses reproches La cité du refuge n'est pas une fantaisie. La cité du refuge est une preuve. Vous pourriez me dire, c'est une preuve négative. À cela, je réponds par une constatation faite 1000 fois. C'est que les personnes intéressées s'agitent et discutent dans une confusion perpétuelle entre leur réaction psychologique et leur réaction physiologique. Elles ne savent à proprement parler, pas de quoi elles parlent, elles sont obsédées par des idées fixes et c'est cette obsession qui est la cause de leur protestation. Nous avons le droit de ne pas tenir compte, de ne pas en tenir compte et de poursuivre avec sérénité les recherches positives et scientifiques. Donc les clodos, les fimères, les extolards et les vagabonds de passage qui n'ont pas mis longtemps à comprendre que ça marchait pas, ni chauffage, ni ventilation, impossible d'ouvrir une fenêtre. À la crèche, les enfants souffrent du manque d'oxygène et des températures trop élevées. Le Corbusier a sciemment construit un bâtiment qui ne respecte pas les règlements en vigueur. Il veut mettre les pouvoirs au pied du mur. Et ses références, c'est transatlantique, salon et fumoir de paquebot, passerelle, dortoir modulaire, répétition monotone, de cabine et des gaines. Et surtout, là, la grosse invention, et Ram Koolhaas a travaillé là-dessus, c'est l'air conditionné et sur les ascenseurs. Et son air conditionné ne marche pas, donc son concept est faux.
Il ne marche pas parce qu'il est primitif, parce qu'il est conçu trop tôt, en quelque sorte. Hein. Le Corbusier a beaucoup d'idées remarquables, mais les briseuils ne marchent pas, l'air conditionné ne marche pas. Mais
c'est formidable comme il est méprisant avec ces gens.
Ah oui, mais ça il est toujours très méprisant, il est très dur, comme aussi il est très violent avec les gens qui lui nuisent ou qui le critiquent, les habitants ou bien ses collaborateurs, ceux avec lesquels il se fâche, les Xenakis, ces gens comme ça. C'est un homme qui casse très violent, qui est très cassant. Il a une telle certitude de ce qu'il va apporter de positif à l'histoire de l'humanité et de l'architecture que le reste il le piétine, oui.
En fait, un destin,
c'est
la conscience qu'a la personne de son destin, quoi.
Oui, la conscience d'un destin qu'il se
fabrique totalement.
À l'âge de 33 ans, quand il prend son Le Corbusier, il décide qu'il n'est plus un être de chair, qu'il devient une sorte de concept, il l'écrit lui-même.
C'est un ramassis de fiction, par exemple.
Et qu'il devient une sorte de fiction active, positive. Oui,
il renonce aussi à son corps quand il prend le nom de Le Corbusier.
Il explique qu'il n'est plus un homme de chair, il ne faut pas s'intéresser à l'homme tel qu'il est, etc. Et qu'il est une...
Un concept.
En quelque sorte, on dirait ça aujourd'hui.
Ouais. Alors, il y a une question qui revient tout le temps, mais qui est évidemment... qui reste d'une actualité flagrante, c'est la question des HLM, sur sa responsabilité. Donc, vous avez très tôt... polémiqué avec Claudius Petit, qui était son grand fan, qui est un ancien ministre. Vous écrivez « Devons-nous les regarder avec inquiétude dès le moment de leur conception comme la rêverie fanatique d'un planiste, d'un maniaque, comme l'une des plus extravagantes divagations de l'imaginaire fasciste et totalitaire, d'un inventeur dont l'apolitisme n'était que théorique, voire un pur mensonge de façade ? Ce goût de l'ordre est-il séparable de ce que fut son projet politique et social, ou bien au contraire font-ils encore étroitement système ?
Oui, quand j'écris ça, c'est pas à propos des HLM, c'est ce que vous appelez HLM, c'est en gros les cités radieuses, c'est à propos des plans de la ville de 3 millions d'habitants et des plans pour Paris qui sont du milieu des années 20.
De 1922.
Hein, 20 ans avant, oui. Donc je n'accuse absolument pas d'être fasciste les cités radieuses de Marseille ou autres qui sont très très complexes et très riches d'attention positive à mon avis.
Mais alors on n'a pas le temps de parler d'Alexis Carrel et de son amitié avec l'eugénisme et tout ça. Bon, ça c'est encore... Alors après la guerre, il a 60 ans, une certaine poésie se fait jour. L'idée d'une indicibilité, d'un mystère fondamental de l'architecture est dans son œuvre construite une sensualité, une matérialité plus assumée.
Ça se traduit par Ronchamp, ça se traduit par les bâtiments d'Inde, ça se traduit par la Tourette. La Tourette est un bâtiment qui a une part de sensualité assez, assez importante. Hein. L'extraordinaire crypte de la chapelle, c'est un bâtiment quand même assez dur à la Tourette. Hein. J'ai beaucoup vécu, j'ai passé beaucoup de jours et de nuits.
À la Tourette ?
Oui.
C'est dur.
C'est un bâtiment dur, mais c'est un bâtiment extraordinairement sophistiqué, intelligent, d'une très grande beauté, d'un très grand ascétisme.
Mais c'est pour des masochistes quand même.
C'est pour des futurs dominicains, oui. Donc c'est pour des masochistes, probablement, oui. Pour des gens, en tout cas, qui se dédient aux crucifiés.
Ouais. Et alors, moi qui viens du situationnisme, donc ce que détestaient les tristes internationaux et puis les situationnistes chez Corbusier, c'est très marrant parce que il y a Lefebvre, alors il y a aussi Henri Lefebvre. Il y avait un article dans Le Monde sur les gilets jaunes, sur l'urbanisme, qui faisait référence à Henri Lefebvre. Mmh. Ça m'a fait plaisir. Comme quoi l'histoire des gilets jaunes relève aussi du droit à la ville d'Henri Lefebvre. Mais donc, ce que lui reproche Debord, c'est de supprimer la rue, en gros. Ça, c'est de supprimer les endroits de convivialité, les endroits de rencontre. C'est un urbanisme qui n'aimait pas la ville.
Non, les architectes de l'entre-deux-guerres se retrouvent confrontés à une énorme croissance des villes, des grandes villes, de Berlin, de Londres, de Paris, et se sont trouvés aussi face à un remède qui était la croissance du pavillonnaire. On a du mal aujourd'hui à se souvenir ce qu'a pu être le mépris et la haine qu'on a eu pour ce que les Anglais appellent le sprawl, c'est la ville qui se répand sous le fort du pavillonnaire. Et en gros, la ville leur paraissait être un kyste, leur paraissait être la rue pour le Corbusier était une fissure. Il parle d'une fissure, donc une fissure dans une sorte de croûte. Mais c'était une idéologie qui n'a pas inventé, c'est une idéologie qui remonte. On pourrait dire qu'Haussmann aussi, quand il se confronte à la ville léguée par le Moyen-Âge ou par les temps classiques et qu'il la tronçonne pour faire, sur le mode que l'on sait pour faire ses grandes percées, d'une certaine façon annonce aussi ce monde plus sain, plus éclairé, plus efficace pour la circulation, etc. Avec le Corbusier et les modernistes, on va beaucoup plus loin, on va vers une ville qui est totalement séparée de tout contexte historique, une ville qui est tournée, dans les immeubles sont tournés vers le sud ou vers l'est ou l'ouest en fonction de critères d'éclairement. On va vers une génération de non plus de la rue ou du quartier autour de l'immeuble, mais de l'espace vert et du terrain de sport. On va vers une séparation, une destruction complète du petit commerce qu'on ne soupçonne pas encore avant-guerre ce que va être le centre commercial, tout ça, mais déjà on critique la présence du café, la présence de tous ces petits lieux de sociabilité et de crétinisation des masses ou de dégradation de la santé, alcoolisme, tuberculose, tout ça se mêle dans la critique sociale que l'on fait d'un monde et d'une société qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas du tout le peuple, bien évidemment. Il y a très peu de sociologie à l'œuvre dans les projets d'architectes, en tout cas chez Le Corbusier, en tout cas avant-guerre. Donc tout ça concourt dans l'élaboration de ce que la Charte d'Athènes en 1933 va mettre au point, c'est-à-dire des villes qui, en gros, ont rompu tout lien avec la ville traditionnelle.
Oui, il y a une autre approche formidable dans votre livre. Bon, moi, je connaissais celle de Franck Castel, et ça, vous en parlez assez peu, mais ça m'avait beaucoup impressionné, c'est de 1953. Oui. Mais il y a Sandrart. Alors Sandrart a écrit, il est vrai qu'il affirmait qu'il fallait éduquer le peuple alors que c'est lui qui a tout à apprendre du peuple. Dans une fiction, donc Sandrart a écrit ça. Mais malgré ce tam-tam qui montait chaque détail en épingle, l'ensemble n'était que tape à l'œil, frime et camelote. Les matériaux ne tenaient pas. Au bout de peu d'années, cette cité modèle ressemblait aux autres amoncellements de décombres et de saletés de la zone. Ce n'était plus une cité viable, nouvelle, mais une pouillerie de plus. C'est extrêmement violent.
Oui, il ne parle pas de Le Corbusier, hein. Il faut quand même rappeler que Sandrart est né à quelques jours de distance de Le Corbusier et à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres de distance. Ils sont tous les deux de la Chaux-de-Fonds et ils sont contemporains. Ils se sont rencontrés en 22, je crois, au salon d'automne. Donc ils se sont rencontrés adultes. Ils sont nés en 87. Mais ça, c'est une fiction qui met en scène, en fait, Le Corbusier à Pessac. Mais il ne dit jamais que c'est Le Corbusier. Il s'est présenté comme un
architecte. Oui, mais enfin, on comprend qui il parle. Puisque c'est lui le plus célèbre
bien
de tous.
Et que la description physique qu'il fait du quartier est exactement la description de Pessac. Donc, en effet, c'est très violent, extrêmement moqueur.
Le Franck Castel écrit « Monsieur Le Corbusier a horreur du pauvre ». Ça m'avait beaucoup frappé. C'est...
Le Corbusier aime un peu le peuple pittoresque. Il aime le restaurateur.
Il vient d'un milieu d'artisan.
Oui, mais il n'aime pas en effet enfin, il ne connaît pas d'ailleurs, mais il n'aime pas le prolétaire. Et notamment le prolétaire aviné qui bat sa femme sur une idée qu'il s'en fait.
Ouais. Et donc d'où les stades de sport où on reprend les masses en main. Et c'est Mussolini, c'est Sorel, c'est l'idéologie fasciste.
C'est l'idéologie pure et dure. Du pré-fascisme, en tout cas.
Et donc, quoi d'autre? Oui, donc...
Mais voyez comme vous êtes, vous me faites parler d'un livre que j'ai écrit il y a 4 ans.
Et pas, et pas de votre nouveau livre. On va parler de votre nouveau livre.
Et vous insistez sur les 80 pages sur les 580, les 80 qui traitent justement du fascisme. Donc, mais je suis d'accord pour en parler,
Mais c'est-à-dire que quand même, alors je suis d'accord, il y a un vrai plaisir dans votre livre. Dans le nouveau, dans Rococo.
Il est très différent.
C'est tout à fait différent et c'est tout... C'est aussi un récapitulatif d'une vie, donc il y a une, on se rend bien compte que ces croquis d'oiseaux n'ont pas, ces crobards d'oiseaux n'ont pas été faits en 5 minutes, en 6 mois ou en 1 an.
Alors le problème c'est que cet ouvrage, oui, pour moi c'était un pamphlet. C'est une réponse à des choses que j'ai vécues et des choses qui, pour certaines, m'avaient été douloureuses. C'est un pamphlet que j'ai vécu sur un mode, on pourrait dire, très littéraire quand même. Je ne dis pas que c'est une haute qualité littéraire, mais c'est un mode littéraire, c'est un genre littéraire. Et puis, que j'avais écrit sur un mode qui est celui de la fable, du conte. C'est très, très tressé, truffé et tressé de fables et de contes. Donc, c'est une chose, une curiosité un petit peu. À la fois un pamphlet et une curiosité. Et il se trouve que l'éditrice que j'ai rencontrée tout à fait par hasard au mois de juillet, au Havre, est une femme qui a une très grande ambition de ce qu'on appelle design graphique, je crois qu'il y a de graphique, de je sais pas s'il y a un mot français.
Graphisme.
De graphisme, d'élégance et de beauté des ouvrages. Quand j'ai rencontré, c'est à fin juillet, j'étais un peu méfiant, pas méfiant parce que ce qu'elle faisait était très beau, mais je voulais pas faire un beau livre puisque je voulais que ce reste un pamphlet, un ouvrage littéraire, entre la poésie et le pamphlet, entre le coup de gueule et le songe, je dirais. Et elle a réussi à me convaincre que je pouvais l'illustrer. Je voulais pas de photos, je voulais pas de ceci, cela. Elle savait que je dessinais un peu. Elle me dit, ah ben, combien vous faites d'oiseaux? Bon, je regarde ensuite chez moi. J'ai des carnets de dessins. Les oiseaux sont pas ma préoccupation principale, mais quand vous dessinez constamment, comme ça, vous avez 6 000 à 7 000 dessins dans vos carnets, il se trouve que j'avais 200 oiseaux à peu près, donc j'ai sorti 200 oiseaux. Mais je dis, mais je veux pas que vous mettiez des oiseaux comme ça dans mon texte. Je veux que mon texte soit protégé. Qu'il ne soit pas commenté, qu'il ne soit pas il est suffisamment nuancé pour qu'on ne le commente pas. Et il y a eu cette idée extraordinaire de dire, mais je vais vous faire cet ouvrage étrangement plié, ça s'appelle une reliure japonaise, dans laquelle 1/2 est cachée, enfin 2/4 sont cachées, et dans ces pages cachées, je mettrai des oiseaux. Donc il y a cette idée très belle, c'est qu'on peut lire le texte sans voir, pratiquement sans rencontrer la moindre illustration, et si on l'illustre, si on l'ouvre, on trouve des oiseaux. J'étais totalement touché par son idée et on a fait ce livre comme ça.
Et j'ai peut-être fait un contresens en fait dans ma lecture de votre livre parce que j'étais intéressé j'avais envie de parler avec vous du Corbusier mais j'ai dit que c'était un livre qui parlait de cette exposition, mais peut-être qu'il parle d'une question de plagiat, d'une accusation de plagiat. Alors, et là j'ai peut-être pas été assez attentif à cette question du plagiat.
Alors, j'ai pas envie de revenir trop sur cette question, bien qu'elle nourrisse beaucoup de livres. C'est un livre dans lequel, en gros, j'ai traité des satisfactions et d'un certain nombre d'étonnements, mais aussi de douleurs qui me sont arrivées après l'apparition du livre du Seuil. Notamment une accusation de plagiat portée par un personnage très important, dont je ne parlerai pas plus en détail aujourd'hui, mais qui nourrit beaucoup ce livre. J'en ai énormément souffert. C'est une accusation de plagiat en public devant une assemblée très nombreuse de gens que je connais très très bien, etc. Des historiens, des universitaires pour l'essentiel, des conservateurs de musées. J'ai demandé des excuses plusieurs fois publiquement ce jour-là, puis j'ai demandé ensuite au Centre Pompidou, au président, j'ai donné la piste à vous-là, qui n'a pas répondu, puis qui a répondu un jour par une... Comme répondent les énarques, c'est-à-dire par une chose totalement méprisable, à mon avis, cher ami, etc. Ce n'est qu'une querelle de beaux esprits. Bon, ça m'a blessé à un point qu'on ne soupçonne pas les gens qui n'ont pas été blessés par des accusations injustes. Et je voulais en quelque sorte en faire quelque chose. J'arrivais pas trop. Et puis, comme vous savez, dans le plagiat, toutes ces histoires du jet, des plumes du paon, la fable de la fontaine qu'on trouve avant chez Sophocle, qu'on trouve chez Phèdre, qu'on trouve chez plusieurs, j'ai commencé à nourrir tout un monde de fables et d'oiseaux. Comme le Corbusier lui-même porte un nom d'oiseau, signait ses cartes à sa femme par un petit corbeau, j'ai développé tout un univers, on dirait, poétique, nourrissant le livre, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, d'oiseaux venus de la philosophie, parfois un peu de la chanson, mais surtout de la philosophie ou de la littérature. Et j'ai construit comme ça cette espèce de livre un peu ébouriffé, qui est une fable sur le monde contemporain, sur le plagiat, sur la diffamation, sur les réseaux sociaux, sur diverses choses comme ça, à partir du thème de l'oiseau.
Yeah, yeah.
C'est une métaphore, une sorte de métaphore.
On avait une version en musique contemporaine, comment ça s'appelle, La guerre des oiseaux,
La conférence des oiseaux.
La conférence des oiseaux. Conférence des oiseaux.
C'est un livre soufi absolument magnifique que j'ai. Je cite d'ailleurs cet ouvrage, c'est un livre très très beau d'un poète qui s'appelle Attar, ce qui veut dire le parfumeur. Et c'est très beau parce que
Lévinas, le musicien qui a fait.
Lévinas avait fait. C'est la première œuvre de Lévinas il y a très longtemps. C'est une œuvre presque de jeunesse de Lévinas où il en avait fait. Mais c'est pas lui qui est d'ailleurs qui a fait renaître la conférence des oiseaux. C'est en fait Jean-Claude Carrière pour une pièce qui avait été présentée par le grand metteur en scène anglais de Paris, le théâtre des Bouffes du Nord, vous savez.
Peter Brook,
oui. Et d'ailleurs, au théâtre des Quartiers d'Ivry, dans un mois, est redonné la conférence des oiseaux, qui est un très très beau livre de philosophie mystique soufie. C'est une histoire de querelles d'oiseaux qui veulent se rendre à la Chine pour y voir en quelque sorte Dieu. C'est assez complexe et se perdre en lui. C'est très très beau. Mais enfin, ça n'est qu'une. Là, la bibliographie, vous l'avez peut-être vu, est extrêmement copieuse. Comme en général, venant plutôt de la presse, je n'ai pas l'habitude d'établir des bibliographies. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les notes infra-de-page. J'aime que tout soit dans la matière même du texte, surtout dans un ouvrage de caractère littéraire. Mais là, comme on me reprochait pour l'énorme Corbusier de ne pas avoir fait de bibliographie, mais elle aurait fait combien de pages? Elle aurait fait 40 pages, 50 pages, c'était absurde. Ici, je me suis appliqué à faire une biographie savante très complexe, parce qu'en plus, je me suis, dans cet ouvrage, je voulais absolument que les mots soient très beaux, très choisis, qu'ils viennent de toutes sortes de mondes. Par exemple, les fables sur le plagiat, les femmes. Je l'ai cherché à Fontaine, je l'ai cherché à Phèdre, je l'ai cherché à Sophocle, je l'ai cherché dans quantité de traductions différentes, successives de Sophocle ou de Phèdre. Je vois que parfois les oiseaux changent, que parfois ce sont des choucas et non plus des geais. Je regarde dans les dictionnaires comment on disait chouka en grec. Et je brode, vous voyez, toute une matière que je dirais littéraire ou poétique, en tout cas, qui est faite de mots et qui m'apportait beaucoup. Par exemple, le livre dont vous parlez, La conférence des oiseaux, j'en ai cherché trois traductions. Il y a la traduction par Henri Gougaud, il y a celle par Jean-Claude Carrière, et puis il y en a une antérieure au XIXe siècle, et les mots sont tout à fait différents. Si vous regardez, par exemple, je me suis amusé aussi à regarder les psaumes du roi David dans plusieurs traductions, et des animaux qui sont une fois des licornes deviennent un rhinocéros, puis deviennent un buffle. Donc on voit changer complètement la nature des choses et la signification des mots. Et pour une littérature comme celle que je pratique cette fois, qui est un peu joueuse, c'est une nourriture très, très agréable aussi.
Mais je dois dire que aussi le bouquin au seuil, le Corbusier, est publié chez Fiction et Compagnie.
Oui, ça j'avais voulu. Hein.
Et c'est là que Catherine Millet publie ses souvenirs. et puis que Thomas Pynchon, qui est considéré comme l'écrivain américain de référence pour les gens qui aiment la littérature, les traductions sont publiées chez lui. Roubaud en France, Chantal Thomas, des gens comme ça. Donc on n'était pas du tout dans une littérature de pamphlets ou de choses comme ça.
Le seuil voulait me publier une histoire, mais je voulais pas publier une histoire justement parce que je tenais absolument que ce soit un ouvrage littéraire. Donc c'est moi qui ai demandé que ce soit fiction.
Et c'est pas un livre chez Flammarion ou chez Fayard, une grosse biographie. C'est pas ça du tout. C'est un ouvrage littéraire déjà.
Oui.
Donc alors Rococo, qu'est-ce qu'on dit sur l'essentiel de Rococo? Donc beaucoup d'oiseaux, une accusation de plagiat, une blessure, le retour sur l'événement. Alors il y a aussi en gros caractère, en grand caractère plutôt, un corps important de différents titres consacrés à ce scandale dans des langues étrangères. C'est un objet de plaisir, quoi.
Edith Boyer, cette éditrice, avait vraiment cru à mon texte. C'est pas toujours le cas, les éditeurs souvent s'en foutent un peu ou pas beaucoup, mais elle le connaissait absolument par cœur. C'est absolument quelque chose aussi d'extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui le connaît par cœur, le texte que vous lui envoyez sous forme de PDF. Et elle m'avait demandé l'autorisation de mettre en valeur certaines phrases. Elle avait fait un test avec des sortes de caractères un peu écrasés. Vous voyez, maintenant, les typographies peuvent être modifiées par l'éditeur de façon très très nuancée. Bon, pas réagi, etc. Elle appelait ça mettre des vrilles typographiques. Et puis finalement, elle est revenue avec ce qu'elle a fait là. C'est pourquoi c'est un ouvrage vraiment fait à deux. C'est que le texte, elle l'a un peu déstructuré. C'est-à-dire qu'elle y a introduit des petites variations, soit quelquefois des variations typographiques très franches, comme dans les pages que vous dites, mais très souvent plutôt des désarticulations très très légères. C'est-à-dire qu'un deux mots vont s'espacer un peu, vont glisser l'un par rapport à l'autre, dans une totale lisibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Parfois, c'est un tout petit peu comme des calligrammes chez Apollinaire, chose que j'aime peu les calligrammes d'Apollinaire. Mais on est là dans un monde dans lequel votre texte a été lu, aimé, goûté, apprécié et interprété comme un acteur interprétait un texte. Donc le texte est extrêmement enrichi par le travail du typographe. C'est formidable. Je trouve ça absolument extraordinaire. Pour moi, c'est bouleversant. C'est bouleversant. C'est comme si j'avais pris ce texte et que j'avais entendu sur une scène de théâtre.
Oui, on a créé un objet, là, donc...
Un objet, oui, alors, je m'amuse toujours, parce que c'est pas un livre-objet non plus, c'est pour ça qu'il est très modeste, qu'il est blanc, qu'il est léger, ça reste un livre fait pour être principalement lu, c'est pas un coffee table book, c'est pas un objet de luxe.
C'est pas un beau livre, c'est un livre beau.
Voilà, et puis j'aime bien dire, c'est pas du tout c'est un sujet aussi, c'est un livre sujet, c'est un livre qui agit, c'est un livre qui dit des choses, c'est un livre qui... ce n'est pas un objet.
Il reste d'un prix tout à fait abordable, il n'y a pas de...
Oui, il doit être un peu... Par rapporter d'argent est un peu difficile, mais c'est un livre qui elle n'a pas d'attaché de presse, elle n'a pas c'est un livre qui se vend comme ça par la rumeur.
Mais je veux dire, c'est pas un coffee table book.
Non, pas du tout, non.
Mais si les gens trouvent, c'est un livre qui est dans un format tout à fait raisonnable, qui est lourd d'ailleurs quand on le prend à la main.
Il fait 520 pages, donc papier très fin quand même, c'est presque un papier bible.
Est-ce que vous avez eu des retours intéressants?
Oui, c'est magnifique, oui.
sur Rococo, vous avez eu des retours intéressants, des gens qui vous ont dit des choses
Oui, non, c'est pas intéressant, ce ne sont que des dithyrambes, donc c'est extrêmement touchant, ça m'a fait un Noël délicieux.
Il n'y a pas eu de...
De polémique pour le moment?
Pas spécialement polémique, mais enfin...
Pour le moment, je n'ai pas trouvé de gens de reproches. Vont-ils venir? La presse n'a pas encore donné, si je puis dire. Et les gens que je mets en cause pour le moment, soit m'ont fait savoir qu'ils étaient en train de le lire avec amitié, soit n'ont pas réagi encore, ou ne réagiront pas.
Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, merci beaucoup.
Voilà, puis pour montrer quand même que je connaissais aussi Le Corbusier, je parlais de, on a mis 80 pages de dessins.
Formidable, les dessins à la fin. Oui. C'est 80 dessins, pages, hein, oui.
Oui, de dessins de le de bâtiment de Le Corbusier que j'ai pu fréquenter dans ma vie.
Sur papier couleur. Magnifique. Hein. Voilà, la maison atelier d'Amédée aux enfants, à Paris. Hein, Anvers, la maison Guyette, Garches, etc. Hein, tous les endroits où vous êtes allé été. Vous avez été dessiné sur le motif.
Je ne suis pas un artiste, hein, donc c'est pourquoi les dessins, je n'ai jamais publié de dessins. C'était des dessins que je faisais pour moi, pour entraîner ma mémoire, pour... parce que c'est très agréable de dessiner contre voyage, on s'assied, on voyage à un autre rythme.
Mais vous avez une formation d'architecte.
Oui, j'ai une formation d'architecte.
Vous avez appris à dessiner encore
Non, j'ai appris seul. Parmi les architectes, on est assez nombreux comme à dessiner dans ma génération, mais on a appris seul, on n'a pas eu de formation, non, du tout. C'était déjà fini.
Ah oui.
Oui. Mais vous savez, le dessin, on l'apprend seul.
Bien sûr.
Et puis voilà, ça devient...
C'est la pratique.
C'est comme l'écriture, c'est la question pratique. Pratique. Oui.
Bon, ben on va écouter un dernier morceau.
Une nouvelle maladie ravage notre quartier, c'est la tangomanie. Les hommes, les officiers sont atteints sans réserve par ces airs langoureux, chansons qui vous énervent ou vous rendent moelleux. Alors moi, j'ai fait un refrain que l'on chante du soir au matin. C'est le plus beau casernement, car chez nous, on fait tout en tangotant, gueulant comme des trompettes dans un bruit infernal. Tous les copains répètent le tango casernal. Ta-da-da, ra, la, 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 la. Le soir dans la chambrée, quand on en fait le tour, la brise parfumée fait rêver à l'amour. C'est l'heure du poète, c'est l'heure du baiser. Dommage qu'il y ait des chaussettes suspendues pour sécher. Mais soudain, dans l'obscurité, des plumards, les copains ont sauté en liquette et tous agités. Par couple, tout le monde se met à tangoter, et gueulant comme des trompettes dans un bruit infernal. Tous les copains répètent le tango casernal. La 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 Maintenant chaque militaire, pour que ce soit réussi, a pris une cavalière.
Bon, ça a passé très vite, c'était absolument passionnant. J'étais avec François Chalin pour parler de son nouveau livre Rococo ou Drôle d'oiseau, divertissement, qui vient de sortir aux éditions Non Standard et qui est chaleureusement recommandé par La Vie est un roman. Merci, à mardi prochain.